Donc cette présentation, je vais vous présenter la genèse de ce projet, donc intitulé Cartophonie. Et cette genèse, elle a amorcé sur des travaux un peu hybrides par rapport à cette recherche. Après, je vais vous présenter donc les sous-marques qui nous a permis justement de faire un cahier des charges pour faire ce projet, cet outil cartographique. Et puis après, donc, on va naviguer sur l'outil Cartophonie en espérant que tous les paramètres techniques soient avec nous, qui, des fois, on maîtrise pas l'ensemble. Donc, l'amorce, donc le début, c'était en 2008, quand je suis rentrée au laboratoire Cresson, avec Grégoire Chelkov, donc, qui est architecte, m'a demandé, oui, ce serait bien qu'on puisse allier les fragments sonores et les situer. Donc, c'était les situer autant sur un plan que sur une coupe. Donc, le premier brouillon, on va dire, c'était des fragments sonores que j'avais enregistrés dans Grenoble. Et l'enjeu était de pouvoir voir les différences des niveaux sonores d'un point de vue asymétrique, c'est-à-dire quand on se situait au-dessus de la Bastille, et plus on allait dans le tissu ancien, quelle était cette variété, et aussi en fonction des différents tissus que compose la ville de Grenoble. Donc c'était le premier... je ne vais peut-être pas vous montrer tous les détails. C'était le premier brouillon, on va dire, qui permettait d'allier ces données. Après, moi, j'ai continué parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir représenter et d'articuler avec une coupe ou un plan les différents fragments sonores. Donc, mon diplôme d'archi, qui portait sur deux équipements commerciaux, j'avais donc continué à enregistrer, à faire des parcours et à les représenter sur cette coupe. Donc, ce qui permettait, on passait de fragment en fragment. Et ça permettait pour moi de représenter, diffuser les parcours que j'avais effectués dans ces zones commerciales et de qualifier ces seuils ou l'emprise du commerce dans la ville. Donc ça, c'était deux tests. Et après, donc, en parallèle, il y a eu la recherche effectuée au sein du laboratoire, donc intitulée « Cartophonie sensible d'une ville nouvelle ». Donc il y avait une équipe qui était dirigée par Grégoire Chelkov, et avec Jean-Luc, qui était en prise de son, et Olivia Germont. Et l'enjeu de cette recherche, donc c'était celle-ci, un rapport, c'était de savoir quelle était la mémoire sonore d'une ville nouvelle. Donc cette ville nouvelle, c'était plus précisément l'île d'Abos, qui se situe vers Lyon, et c'était d'avoir des qualités, des thématiques pour qualifier cet environnement sonore. Donc ça, une grosse méthodologie a été mise en place. Jean-Luc a effectué de nombreuses heures sur le territoire, enregistré énormément pour avoir ces différentes ambiances, ces différentes caractéristiques de l'environnement sonore. Et après, donc ça c'était le premier penchant de cette recherche. Deuxième, c'était de savoir comment on allait le diffuser, comment on allait le représenter. Donc on a continué à refaire sur ce système de plans. Donc il y avait toute cette matière sonore était accessible soit par un plan, vous voyez, comme ceci, ou parmi la quantité de fragments sonores d'enregistrement. On a sélectionné juste 40, donc la sélection était très, très forte donc pour vraiment avoir les critères saillants. Il y avait aussi une coupe assez synthétique. Il y avait aussi un accès par rapport aux différentes photos fortes de l'environnement sonore de l'île d'Abos. Il y avait aussi une entrée par les sonagrammes. Donc à chaque fois, ces quatre entrées, ça permettait d'accéder à une fiche, et cette fiche était orientée en fonction de la recherche effectuée sur cette...
Pour soler comme ça, c'est vraiment...
Alors attendez, on va laisser un peu de temps. Et à chaque fois, donc, dans cette fiche, ça permettait d'avoir les éléments saillants de cette recherche. C'est-à-dire que là, la priorité, c'était d'avoir un résumé, la sociabilité, l'espace la matière sonore et l'intérêt de ce fragment sonore par rapport à cette recherche. Accompagné de ça, donc, il y avait les photos prises le jour de l'enregistrement. Et après, donc, ce fragment sonore, on avait représenté à travers ce sonagramme. Et là, c'était un zoom du sonagramme qui se situe en haut. Donc là, c'était dans les jardins familiaux du quartier.
C'est bonjour. Ça plante pas. Ben non, regarde, moi j'en ai mis plus de 4 kilos. T'as pas tant que ça, toi. Ah, regarde, il n'y en a pas énorme.
Ça a marché après ça, vous.
Bah si. Ça se mange.
Vous parlez où les la ville, là, pour moi.
Hein?
La ville.
Première expérience qui était assez intéressante parce que c'est vrai qu'on arrivait à diffuser l'ensemble de nos matériaux pour le commanditaire. Là, c'était la ville, l'ensemble des villes d'Abo. Donc, c'était vrai que ça permettait de fouiller et, dans nos matériaux de recherche, d'avoir une présentation plus exacte des axes présentés. Et aussi de pouvoir laisser à l'auditeur de divaguer pour ensuite retourner sur le site ou autre. Donc à partir de cette expérience et de ces trois formes de représentation, on a trouvé ça qu'il y avait quelque chose de pertinent, qu'il y avait se représenter ou situer ces fragments sonores sur une carte et d'articuler avec les différentes données. Pour nous, ça permettait de... Il y avait un élément qui était intéressant et qu'on souhaitait prolonger. Après, l'autre souci, c'est que là, c'est un montage flash que j'avais effectué. Et c'est vrai que c'était une machine à gaz. Dès qu'on voulait un peu changer un des paramètres, ou disons que je n'avais pas les capacités pour faire quelque chose de plus simple et accessible par l'ensemble des chercheurs. Donc, à partir de là, on s'est décidé à faire un outil qui devait être interactif et on s'est posé la question, donc des cartes sonores. Donc c'est vrai que nous on était habitués dans le monde sonore d'avoir les cartes du bruit, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait, des cartes sonores aussi plus cartes mentales qui étaient intéressantes, mais il n'y avait pas cette interaction qu'on souhaitait. Donc c'est pour ça qu'on a fait un détour par les sous-maps. Ces sous-maps qui sont assez présentes, qui sont assez présentes en ce moment sur Internet et qui sont là majoritairement réalisées par des artistes et qui abordent l'environnement sonore avec différentes approches. Donc je vais vous présenter trois types de démarches qui représente plusieurs sunnats, mais moi j'en ai sélectionné 8 pour vous expliquer ces trois démarches de cartes sunnats. Donc la première qui me paraissait intéressante, c'était ces cartes qui étaient intégrées dans un processus de création. Donc là, c'est l'artiste Stenza qui avait monté le projet Sound City. Et ce qui est vrai, ce qui était intéressant dans cette démarche, c'est qu'à la fois, il allait être dans une ville, il allait sur un lieu, soit il l'enregistrait, soit il demandait à participer et à collecter ses fragments sonores. Ensuite, il réalisait donc ses sound maps. Et ensuite, soit il les diffusait d'une manière... avec différents haut-parleurs, ou soit il projetait ses sound-maps sur ses sphères, donc dans les villes où qu'il avait investi. Donc il y avait un processus de collecte, de manière de représenter et de recherche de diffusion avec les habitants ou avec les autres personnes. Donc la deuxième démarche qui était intéressante aussi dans ces cartographies sensibles, c'était la volonté de faire ce que j'ai appelé une tentative d'épuisement d'un environnement sonore. Donc, ce qui est intéressant dans ce type de sound-map, c'est qu'il cherche à représenter la diversité ou au contraire l'homogénéité des espaces. Donc, à travers ces sound-maps, on peut remarquer que cette démarche est effectuée soit à l'échelle mondiale ou au contraire à l'échelle d'une rivière. Donc là, c'est... une sound-map qui était le long de la rivière de Torion, excusez-moi, où l'objectif c'était de faire un inventaire non exhaustif mais représentatif de l'environnement sonore autour de cette rivière. L'autre, à une échelle plus importante, une sound-map qui est vraiment très connue, c'est la sound-map de Montréal, où il y a des fragments sonores qui sont situés principalement dans une partie de la ville et ils sont localisés autant dans des espaces privés et publics. Et la troisième type, encore une échelle encore plus grande, c'est la sound-map Aporé, où là, c'est limite une communauté qui s'est saisie de cette sound-map et qui a placé ces fragments sonores. Donc là, je vais juste vous présenter le lien. Pour Grenoble, Jules en avait mis un. Et vous voyez, c'est au-dessus de l'école, c'est la fameuse sirène dont on vous parle. Donc on sait que c'est un mercredi, déjà, un premier mercredi du mois. Je vous laisserai l'écouter. Et l'enjeu, c'est juste de situer et de le titrer, plus ou moins subjectif ou autre, et d'alimenter ce flux continu dans cette carte. Pour Grenoble, donc... Comment ?
Vous ne pouvez pas la mettre, c'est-à-dire pas longtemps.
Là, c'était un exemple, mais pour un homme, il y en a aussi d'autres fragments sonores qui sont autour de la ligne de tramway. Donc, je vous laisserai divaguer dessus. Et donc là, cet ensemble de cartes donc, représentait pour moi le deuxième démarche, deuxième objectif assez sous le map. Le troisième axe, c'était la recherche de l'imaginaire d'un lieu. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on bascule sur un autre mode de représentation. Et le fond de carte est entièrement retravaillé. Donc là, en haut, c'est la sous-map Écoutez Paris. Donc là, celle-ci, c'est Murmure. Et là, The Roaring Twenties. Donc c'est l'historique dans la ville de New York. Donc ce qui est intéressant à travers ces trois sous-maps, mais il y en a beaucoup d'autres qui représentent aussi de cette manière-là, c'est de proposer des promenades virtuelles dans les villes. Donc de solliciter vraiment les souvenirs, les émotions, les expériences de des habitants dans ces lieux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont réussi à se réapproprier le fond de carte et comment, à des échelles beaucoup plus petites, je n'ai pas trouvé à l'échelle mondiale qui sont complètement redessinées, mais de voir comment ils s'approprient le fond de carte pour localiser leur fragment sonore. Donc, à travers ces trois démarches, donc de tentative d'épuisement d'un environnement sonore ou intégration d'une carte sonore dans un processus de création et recherche de l'imaginaire d'un lieu, donc, on a pu extraire trois critères qui nous paraissaient vraiment pertinents pour réaliser une sous-map ou pour réaliser notre outil cartographique interactif. Donc, premièrement, c'était la question sur la relation entre les internautes et les cartes sonores. Donc, dans des projets comme Sound City, c'est vrai que c'était assez simple. L'interaction, c'était d'arriver à faire cette matière, à pouvoir le présenter soit dans un musée, soit réaliser une performance. Et donc, tout d'un coup, l'auditeur pouvait venir aussi voir concrètement en face cette sous-map et voir même rencontrer l'artiste. Mais dans d'autres projets, cette relation entre l'internaute et la carte sonore, c'est vrai qu'elle était plus complexe. Par exemple, le projet Écoutez Paris, une des démarches premières, c'était que les auditeurs pouvaient écrire des textes sur les fragments sonores diffusés. On en choisissait un et on écrivait un texte ou une poésie sur ce qu'on avait ressenti à travers ce fragment sonore. Et l'objectif, c'était de pouvoir publier et faire éditer un ouvrage à la suite en regroupant ces différents écrits. Malheureusement, cet objectif-là est tombé un peu à l'eau. Il n'y a eu que trois écrits depuis la création de cet outil, c'est-à-dire en 2009. Et le projet d'édition, il n'est plus du tout inscrit dans leur sous-map. Donc, on peut remarquer la difficulté aussi à aller chercher les auditeurs, donc les spectateurs. Le deuxième élément, c'était aussi par rapport à la qualité des échantillons des fragments sonores. Alors, que ça soit, c'est vrai que pour des projets comme Aporé ou le projet de la sous-map à Montréal, on a pu remarquer que c'était des personnes qui étaient vraiment sensibilisées à l'environnement sonore. Souvent, les fragments sonores étaient de bonne qualité et qui avaient quand même une recherche pour diffuser un environnement sonore assez intéressant, même si les qualités sont en fonction, bien sûr, de chaque personne.
À Montréal, c'est participatif. En fait, n'importe qui peut rajouter des sons. Oui. Ça fait varier la qualité beaucoup.
Mais souvent, on a remarqué que même celle de Montréal, l'ensemble des fragments sonores sont quand même très bons.
Oui, c'est dans le réseau des artistes.
Exactement. C'est une communauté comme à Radio Aporé, même si c'est à l'échelle mondiale, on peut remarquer qu'ils sont quand même de bonne qualité.
Est-ce que c'est participatif aussi?
Oui, à Radio Aporé, oui.
Donc ça
fait une communauté très importante et c'est vrai qu'il y a des festivités qui se créent autour de cette radio Aporé et c'est assez limité. Mais cette position-là, donc c'en est une, mais c'est vrai qu'il est intéressant. Par exemple, il y a des géographes comme Joël Châtelat qui lui, et il dit, mais on pourrait le faire dans le sens inverse. Est-ce qu'avec la fait de pouvoir enregistrer d'une manière assez simple avec les téléphones portables ou autres, est-ce qu'avec la manière de démocratiser les enregistrements sonores, est-ce qu'on ne pourrait pas justement espérer mobiliser et sensibiliser davantage la population à l'environnement sonore? Alors lui, c'était l'exemple surtout par rapport aux écoles. Est-ce qu'on ne peut pas, que ce soit dans l'école primaire, collège, lycée, accepter d'avoir des fragments sonores de moins bonne qualité, mais sensibiliser à l'ambiance sonore d'une autre manière? Donc ça, ce sont deux approches. Hein. Je ne dis pas l'une de l'autre est plus intéressante ou autre, mais c'est vrai que c'est une question à se poser quand on fait une sous-map, quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on veut intégrer comme type de fragments sonores. Et le troisième élément intéressant, c'était de voir l'évolution et la pérennité des cartes sonores interactives. Donc soit comme type de carte sous-map aporée ou des projets collaboratifs de ce type qui ont une forte audience, on va dire, le projet continue, il y a toujours une actualité. Par contre, on remarque quand certaines sous-maps, une fois que le projet est terminé ou une fois que le projet tombe un peu dans les oubliettes, la sous-map, des fois, ne marche même plus du tout ou est complètement oubliée parmi la profusion des sous-maps. Alors, c'est intéressant parce que cette présentation, ça va faire depuis la création de Cartophonie que j'ai fait, ça va faire 3 ans, mais à chaque fois, je ne répète pas, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais à chaque fois que je présente l'évolution des sous-maps, chaque fois, je dois réactualiser mes exemples parce que, par exemple, l'année passée, j'avais utilisé Badafiona, c'était à Barcelone, dans un quartier, non, tu ne connais pas. C'est une sous-map dans un quartier barcelonais. Et maintenant, elle ne marche plus, alors qu'elle date juste d'un an. Et il y a un an, elle marchait très bien, il y avait des promenades, différents fragments sonores qui étaient vraiment de belle qualité. Et là, tu m'as fou, il n'y a plus rien. Et ce même problème existe aussi pour les villes qui investissent énormément, par exemple à Rouen ou au Auxerre, où ils ont voulu faire des cartes sonores un peu plus sensibles, effectuer des parcours. Et souvent, elles tombent dans les oubliettes parce que soit il y a un problème technique, soit il n'y a plus d'actualité. Et puis, au fur et à mesure, elles sont cachées dans la profondeur des sous-maps sur Internet. Donc, c'était ces trois critères qui paraissaient intéressants pour faire ce cahier des charges et pour avoir un peu l'idée vers où on voulait diriger notre projet d'outils cartographiques au sein du laboratoire. Donc à partir de ça, on a monté une équipe pour réaliser ce projet. Donc cette équipe était pilotée par Grégoire Chelkoff. Et dedans, il y avait donc Françoise Aquier, que vous avez eu la présentation lundi par rapport à tout ce qui était archivage, documentation. Il y avait aussi Jules qui nous donnait son regard externe en disant des fois vers où on voulait aller ou au contraire nous limiter dans nos démarches qui n'étaient peut-être pas assez sensibles. Il y avait moi aussi qui était à Archi, et puis il y avait aussi une autre équipe privée donc, qui allait nous développer le projet d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus faire flash, on voulait que cet outil soit interactif, donc soit sur Internet, et surtout on voulait que ce soit accessible sur tous les formats, que ce soit iPad, iPhone, donc ça voulait dire être en codage, en fameux codage HTML, mais là, les compétences informatiques se limitent à ça. Donc ça, c'était les critères pour faire ce fameux outil cartographique. Et donc, on a pu le... Attends, je vais vous le montrer parce que... Ah. Bon, il est là.
Et le cache.
Je la poste ce matin. J'ai vu Internet maintenant. Bon, même si ça change, on n'a plus besoin d'un CD et d'un livre, il nous faut quand même un minimum, c'est Internet. Quand on habite.
Est-ce que tu connais le projet de Peter Cusack de London Centric? Parce qu'il marche très bien. Mm-hmm. Peter Kujak.
C-U-S-A-C-K.
Oui.
C-U-S-A-C-K.
Et c'est un sound map de Londres.
C'est là où il y a des parcours. Il y a beaucoup de parcours, non?
Non. Et c'est ça web privé, alors elle ne va pas tomber.
C'est quoi, c'est privé?
C'est ça web.
C'est ah oui, c'est son web privé. Ah oui, d'accord.
Et lui, c'est un chercheur qui travaille à cheval entre l'académie et les arts. Et il travaille beaucoup le chant d'une façon très sensible.
Donc voilà, un des problèmes d'ici, c'est qu'il y a un peu trop de béton, comme tu dis, Mathieu. Alors voilà ce fameux outil que nous avons développé avec donc des entrées assez simples mais spécifiques au laboratoire Cresson et qui pour nous était important de mettre en place et d'afficher clairement. Donc tout simplement là, il y a la recherche par mots-clés, par lieu, par nom de recherche, par une manière assez ouverte. Ensuite, il y a tous les cadres de recherche, donc c'est toutes les recherches qui sont intégrées à l'intérieur de Cartophonie. Il y a le paramètre saison, donc je reviendrai dessus, mais c'était pour nous aussi important d'avoir cette diversité. Il y avait les années, donc on peut voir qu'on a la première recherche qui est dedans, dans Cartophonie, qui est sonorité, sociabilité et urbanité, jusqu'à maintenant, non? Et ensuite, le dernier critère, donc, c'est les effets sonores, donc, qui sont tous regroupés dans ce livre-là. Il y a, Michel Riss nous avait présenté surtout un effet sonore, donc Sharawaji. Donc on en a 6, mais donc ça dépend aussi des fragments sonores et des recherches, l'ensemble de ces effets. Et après, donc, vous avez l'ensemble des 380, en ce moment, on a 392 de fragments sonores intégrés dans cet outil. L'autre, donc ça, c'est les éléments de base de rentrée. L'autre élément important aussi, c'était de choisir ce fameux fond d'écran. Alors, c'est vrai que ce qui était intéressant dans les représentations graphiques d'Écouter Paris ou Murmure, c'était d'avoir ce degré d'abstraction. Mais nous, il fallait bien qu'on arrive à les situer d'une manière précise, et d'avoir quelque chose qui tienne la route pendant plus d'un an, qu'on ne soit pas lassé de ce mode de représentation. Donc, par simplicité, on a choisi Google Maps, et aussi parce que ça apportait de pouvoir le voir en Street View ou autre. Mais on s'est aperçu qu'on voulait quand même autre chose. Donc là, on a pu détourner une autre interface, qui est Mapbox, et qui permet de s'abstraire un peu du fond, c'est-à-dire d'avoir une vision du fond de carte plus léger, on va dire. Donc par exemple, si on prend, enfin un lien avec la présentation de Guida, si on prend donc le fameux... Ça c'est un fragment sonore enregistré pendant le pavillon pendant l'exposition universelle à Nord, donc c'est le pavillon de Peter Zumthor. Donc là on se rend bien compte que le pavillon n'est plus du tout là. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même intéressant d'avoir un fond de carte qui des fois se cache, quoi, qui n'est pas non plus aussi présent qu'une vue satellite ou un plan, et d'avoir ces données. Donc dans cette fiche, l'élément intéressant c'est d'avoir donc ce titre, la date et un court extrait qui présente surtout les caractéristiques du lieu, de savoir aussi les envies de cette sélection de ce fragment sonore. La recherche responsable et les éléments très importants pour nous, c'est de pouvoir accéder à la bibliothèque, au site de documentation du laboratoire Cresson. Et là, donc, on se retrouve avec la fiche archivée, traitée comme nous l'a présenté Françoise lundi, avec le prototype. Et on peut retourner donc l'ensemble des fragments sonores de cette recherche. Donc là, ce sont tous les fragments sonores de la recherche intitulée Prototype sonore. Et ce qui est aussi la particularité, c'est de pouvoir retourner à la fiche mère et de pouvoir consulter directement le rapport de recherche. Ce qui fait que tout d'un coup, là, on est parti de la carte sonore avec sa localisation, son description, et on peut accéder directement à la recherche, le document final rendu à la suite de ses travaux. Donc ça, pour nous, c'était vraiment important d'avoir cet ensemble de matières accessibles et qui pouvaient se croiser et continuer la recherche, autant pour les chercheurs, mais aussi pour d'autres personnes, puis aussi pour les commanditaires. Donc ça, c'était la première étape, et on s'est aperçu qu'il manquait, qu'on a toujours envie de pousser de plus en plus loin ce projet. Et on a ensuite travaillé sur l'accompagnement de ces fragments sonores et de ces textes. Par exemple, là, c'est une recherche qui s'appelle « Nature au bord de la route ». Il s'agit d'une recherche qui portait sur l'implantation des jardins familiaux aux abords de la rocade à Grenoble. Et c'était aussi de pouvoir regarder le choc des ambiances, comme ils disent, entre le choc des ambiances des jardins et le choc des ambiances des infrastructures routières, et de voir l'emprise de cette infrastructure sur son territoire. Donc là, on s'est aperçu ce qui pouvait être pertinent, c'était de, au-delà, accompagner aussi ce texte et ce fragment à cette carte d'une fiche qui permettait vraiment de rentrer dans la matière de ce fragment sonore. Donc là, on retourne avec d'autres critères qui sont l'espace, le temps, la matière sonore. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il fallait aussi rajouter la saison, parce que étudier les jardins, donc c'est sûr que les pratiques, la vie faune, tout ça évolue en fonction des saisons. Donc on a rajouté ce paramètre de saison parce que c'était indispensable pour la compréhension de cette recherche. Et on retrouve donc aussi un sonagramme pour voir les différents éléments. C'est accompagné aussi de photos qui permettent de relever les lieux le jour de l'enregistrement, mais aussi peut-être le lieu à une autre saison pour voir justement ces évolutions de configuration. Donc ça, c'était une première étape. Après, en fonction de ces vignettes, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi jouer sur par exemple, si on prend sonorité, sociabilité. Donc là, c'est ce rapport-là, le premier du laboratoire Cresson. Donc là, on a toute la partie écrite. Ce qui peut nous intéresser dans le cadre de l'école d'hiver, c'est d'avoir aussi les fragments sonores qui se situent...
Quatrième fragment, voilà. Galerie de l'Arlequin. Le soir du 10 mai 81, entendu depuis le 8e niveau du 150.
Excusez-moi, Grégoire. ce sont les fragments sonores enregistrés juste donc dans la Villeneuve, derrière nous, et qui constituaient donc la première recherche au Cresson. Donc là, je ne sais pas si j'ai le temps ou...
Oui, attends, on peut prendre encore un petit peu de temps.
Thank you. choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est renforcée des forces de la jeunesse, des forces du travail.
Donc là, bon, au-delà de, pour vous rappeler un peu le contexte, le 10 mai 1981, c'était le jour où des élections de...
Troisième fragment, Rodéo
Mitterrand était élu. Et donc, ce qui est intéressant dans ce fragment, c'est de voir la porosité entre les espaces privés. On entend la radio, on entend la télé. À un moment, on entend Mitterrand, justement, son discours où il a gagné, donc. Et à la fois, l'animation à l'intérieur de la ville. Donc, au-delà de ces qualités de ce fragment sonore et ces jeux entre l'espace privé et l'espace public, ce qui était intéressant aussi dans cette recherche, c'était de voir aussi l'évolution dans les représentations. Par exemple,
séquence courte.
Dans un premier temps, tous les fragments sonores qui se situent dans le centre ancien de Grenoble, ils sont dans des dessins. Il y a des plans, il y a des axonométries. Et au fur et à mesure qu'ils sont venus étudier dans la partie moderne, dans les grands ensembles, il y a la représentation s'est orientée vers des photos. Vous voyez, par exemple, celle-ci. C'est des photos prises le jour de l'enregistrement et on voit justement cette évolution et cette recherche de représentation en fonction du lieu. Cette recherche aussi de représentation et de démarche pour collecter ces fragments sonores, on la poursuit, ça dépend dans quelle recherche. Par exemple, quand on regarde les jardins en Iran, ce fut une thèse effectuée par Ariz ou Mahmoud Shizad. Et elle, ce qu'elle a choisi, c'était pour vraiment comprendre les effets de l'ambiance sonore dans ces jardins, c'était de plaquer le spectre sur le plan et en partie supérieure de marquer les différents effets sonores tout au long de son parcours. Donc il y a aussi une autre lecture qu'on peut avoir à travers ces vignettes et comment arriver à restituer cette analyse et le passage entre la collecte et la recherche. Cette tension entre les deux. Voilà. Je vous laisse, si vous voulez, regarder plus de fragments sonores et divaguer à l'intérieur. Je vais continuer aussi sur les autres modes d'entrée. Un autre mode d'entrée plus léger, on va dire, c'est la radiocartophonie. On peut écouter justement les 392 fragments d'une manière aléatoire. Là, c'est la radio, vous mettez juste on-off, c'était un petit clin d'œil pour pouvoir écouter en continu ces fragments. Il y avait aussi la possibilité d'avoir les présentations. Et il y avait aussi la possibilité d'ajouter des fragments sonores. Donc là, la technique est assez simple, il suffit juste d'ajouter, de proposer un fragment sonore, de pouvoir le situer là où on a pris le fragment, et après de remplir ce formulaire de saisie, où là, on reprend justement les éléments saillants, les éléments importants pour nous pour faire cette sound-map, c'est-à-dire les titres, les dates de prise de son, les résumés, que ce soit les qualités du lieu enregistré, ou pourquoi quelle était la démarche, l'URL du fragment, et aussi les effets sonores, la recherche. Donc ça, si vous voulez participer, vous pouvez remplir cette fiche et pouvoir pouvoir déposer un fragment sonore. Ensuite, nous, c'est vrai qu'on est plusieurs à décider si ça s'intègre dans une recherche ou si ça s'intègre dans ce projet, et il y aura une modération effectuée par la suite. Mais ça, c'est complètement accessible, et si vous voulez en faire partie, vous pouvez bien sûr intégrer vos différents sonores, que ce soit la carte postale ou d'autres. Voilà. Juste pour conclure, c'est vrai qu'à travers cet outil, je pense qu'on a pu archiver d'une autre manière les fragments sonores. On a pu aussi diffuser nos, notre démarche, notre manière de faire, que ce soit aux commanditaires ou aussi à d'autres personnes. L'autre élément intéressant, c'est qu'on peut le servir aussi pour l'enseignement. C'est vrai que quand on enseigne dans les écoles d'archi, avoir la dimension sonore dans les projets urbains, ça permet d'avoir un support. Après, j'étais surprise, la dernière fois, j'ai présenté Cartophonie à une communauté d'enseignants au collège et au lycée en géographie. Et pour eux, ils étaient très intéressés aussi d'avoir ce support parce que ça leur permettait d'avoir une approche sensible du lieu qui sort des enseignements plus ordinaires. Donc il y avait cet axe aussi sur l'enseignement. Après, ce qui est intéressant et ce qui commence à s'amorcer, c'est quand il s'agit de recherches qui portent sur un objet spécifique et une démarche assez longue, par exemple que ce soit sur les jardins, nature au bord de la route, il y a eu cette première recherche. Cette recherche continue sous encore un autre format actuellement. Et c'est vrai que c'est intéressant autant pour les membres de l'équipe, que les commanditaires ou que les habitants ou les personnes rencontrées, de voir les premiers travaux effectués, les premières recherches sur l'ambiance sonore dans ces jardins et de voir le fil qui se continue. Et après, l'autre, ça, c'est plus personnel, je ne sais pas si ça va avoir lieu, c'est que Cartophonie, on peut y accéder aussi sous un autre format avec les iPad ou iPod, ça veut dire qu'on peut réécouter un fragment sonore in situ. Donc peut-être que ça pourra donner envie d'avoir une autre approche sur le site, se dire est-ce qu'on peut faire une réécoute réactivée de ces fragments sonores dans un autre contexte, avec d'autres usages. Donc là, c'est à voir. C'est une piste. De toute façon, on a mis tout en place pour avoir le Cartophonie accessible sur un téléphone portable. Bien sûr, il y a le problème d'Internet qu'il faudrait avoir, mais c'est un axe qui peut être développé. Voilà.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Encore. je m'intéresse beaucoup à la carte sonore aussi. Puis j'ai fait un projet qui impliquait la migration. Puis, j'ai pas résolu le problème de comment rendre compte du déplacement.
Oui.
Et de comment on est. J'aime bien votre idée de coupe, l'idée qu'il y a l'espace qui est horizontal et vertical, encore une fois. Mais comment on peut. Est-ce que vous êtes posé cette question?
Oui.
Est-ce que vous avez vu des personnes qui avaient trouvé des solutions ou,
Nous, ce qu'on avait fait. Par exemple, c'est un brouillon, hein, j'insiste sur le terme brouillon. Attendez, on commence à... Donc là, c'était la première carte en forme de plan. Et là, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir naviguer entre. Ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on avait la coupe et tout d'un coup, surtout sur la question de l'altimétrie, je me disais l'altimétrie, on pourrait le présenter sur ce forme de coupe. Donc là, ça marchait bien. Après, quand on est passé dans Cartophonie, on a un peu perdu ça parce qu'on n'arrivait pas. Moi, ce que je voulais, mais l'informaticien,
il voulait pas,
il commence à en avoir marre, c'était de voir un déplacement du curseur.
Ouais.
Et comme ça permettait de voir l'avancement du parcours, les arrêts, tout ça. Alors là, il m'a dit, très franchement, c'est le problème du signal, et puis après, il y a un problème de flash, de l'incompatibilité technique qui, là, ça me dépasse complètement. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant de voir le signal qui se déplace en fonction.
C'est,
voilà, exactement.
C'est
ouais. Même si c'est par exemple en Street View, avoir le déplacement effectué. Donc là, on a des parcours. Alors, les parcours sont représentés comme elle fait pas à Rizou, c'est-à-dire sur les jardins persans, elle a mis plan avec le spectre dessus, et en fonction du spectre, on arrive à lire et faire le lien, et on voit donc son évolution dans le lieu.
Par les images, au final,
oui,
en rajoutant des informations.
Enfin,
c'est vraiment difficile à faire comment le... L'espace et comment on peut parler de l'espace et du temps en même temps? Mm-hmm.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des idées?
Oui. Tu vois, elle avait choisi de faire comme ça. Hein. Tu as le spectre, le plan derrière, Puis vu qu'à un moment donné, elle parle, quand elle dit, elle parle d'une voix très douce, pas non plus complètement effacer, masquer le reste, et tu poursuis en fonction de
son ouais, parcours. C'est superposé,
exactement.
Le sang est superposé sur
la... Vous ne pouvez pas mettre encore par-dessus le curseur de lecture, en fait?
Mais non.
En fait, tu sais que non, elle a fait une méthode, tu
oui, mais c'est... Oui, mais c'est flash, c'est pas Internet.
Puis là, la géométrie est super et en fonction de la vitesse de marche aussi.
On a le gros problème de Internet si on fait en version flash.
Ça va prendre 20 minutes à loader.
Et puis c'est un mode où soit est-ce qu'on veut qu'il soit accessible sur tous les formats, et là on ne peut pas avoir de flash.
C'est moins interactif, plus interactif. Aussi, dès qu'il faut l'éditer, c'est.
Sur ce sonogramme, comment elle fait pour réaliser la même longueur à la fois pour le sonogramme et le plan? Le plan est déformé, c'est ce que
vous avez dit. Pour adapter. Oui, mais ça, je ne sais pas exactement.
C'est une copie d'écran.
C'est le plan qui est tiré.
Non, c'est plutôt
la représentation de son spectre, mais ce n'est pas un sonagramme, là, c'est un spectre.
Ouais, d'accord.
Ouais. Après, donc on voit les éléments saillants. Par exemple, c'est peut-être pas celui-ci qui marche. Celui-là, il marche bien, mais l'autre, il marche encore mieux, j'ai l'impression. Oui.
Ça donne une idée. C'est le distanciement. Si c'est le spectre
qui
est déformé, mais si c'est
enfin,
je sais pas si c'est le spectre ou pas.
Non, c'est un dessin dessus, donc après tu sais où t'es et tu mets ton dessin
voilà.
De son spectre.
Mais ça serait peut-être possible, madame,
parce qu'avec
ça,
si ça marche régulièrement.
Non, c'est pas un grand tube qu'on va avoir, mais si ça déforme, si on déforme la distance du spectre. Parce que le plan, ça permet aussi de sentir les distances entre tel événement sonore et tel autre. Ça, si le plan garde son échelle, par rapport à si le...
Oui, ça, là, tu peux la tricher, l'échelle du plan, pour la faire correspondre à la...
Oui, mais je pense que quand on se déplace, on ne va pas forcément exactement toujours à la même vitesse, et donc les distances se déforment,
oui.
Et donc la relation spatiale entre tel élément sonore et tel autre...
C'est pour ça que je te dis, c'est plus les éléments saillants, les éléments importants qu'elle a notés, hein, par exemple la réverbération, mais après, si on recherche dans le détail, il y a plein de paramètres qui sont, comme tu dis, la vitesse de marche, ou les qualités, est-ce que c'est vraiment là qu'elle a entendu, est-ce que c'était décalé, ça c'est moins précis, c'est les limites de cette représentation. Est-ce qu'elle voulait, c'était surtout montrer les seuils et les étapes, le lien entre la configuration générale et ce qu'elle avait enregistré. Après, c'était peut-être pas assez fin à l'échelle temps et de distance près.
C'est intéressant aussi la relation d'échelle entre les situations de différents sons. C'est aussi intéressant dans la construction de la
Au final, c'est comme une donnée qu'il faudrait enregistrer pendant un enregistrement, presque au final.
Oui, mais on l'a.
Le déplacement.
Sur certains GPS, tu peux.
Mais c'est ça,
il faut bien. Tu peux avoir, même les iPhones, maintenant tu as un GPS, tu t'enregistres. Mais par exemple, tu peux être vite limité s'il suffit que ton signal soit coupé. Ben là, tout perd. Ou soit l'année passée, on avait une personne qui était venue travailler là-dessus. Et des fois, ça l'emmenait. Ça bougeait, le signal était complètement perdu, ou c'était un degré, je ne sais plus, je te rappelle, Julien, c'est l'Italien qui était venu, qui avait travaillé là-dessus. C'était à 6 mètres sa précision.
De toute façon, les captages GPS, c'est plus de masse à l'échelle, on fait en plus du territoire.
Voilà. Donc, par exemple, quand il passe dans la ville neuve, ça correspondait juste à 2-3 points qui ressortaient.
Ou même si on prend le métro, par exemple, c'était pas vraiment.
J'ai deux questions. Déjà, parce que j'ai vu qu'on peut télécharger les sons.
Oui.
Donc, mais comment ça se passe au niveau des droits? Donc, quelqu'un qui est aussi, comme on en parlait, c'est libre de droit en fait ou...
Ben, en fait, c'est la licence Creative Commons qu'a choisi le chercheur. Alors, elle est encapsulée dans le fichier MP3 que vous téléchargez. Seulement, comme j'ai fait ça avec iTunes, c'est pas.
d'habitude, vous n'avez pas le champ. Hein. Mais bon, on va dire que normalement, entre VLC et iTunes, on a à peu près les champs. Hein, et il y a écrit la licence pratique commune. Et c'est en fait, c'est un parleur qu'on rajoute sur le site d'ailleurs. Mais ils ont choisi que pas de modification globalement. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde peut l'utiliser, mais peut le faire écouter, genre, mais pas si vous voulez. Enfin, si vous voulez l'utiliser dans une propre création, le modifier, le transformer, etc., en théorie, vous devez demander l'autorisation. Alors, je pense que là-dessus, on va évoluer. Dire que non, on va faire, qu'il n'y a pas de modification, que toutes les modifications sont possibles. Mais donc, au départ, où ils ne voulaient rien. Puis après, que d'accord, on met en ligne, on documente. Et maintenant, c'est libre de droit. Si vous voulez, on va un petit peu attendre l'année prochaine. Donc, je pense qu'il faut évoluer vers le libre de droit pour que. Ça, les choses
puissent
vivre de leur vie
grâce à ces
pieds-là.
Globalement,
c'est plutôt ça qu'ils ont choisi et c'est ça qui est noté.
J'ai deux autres questions. Est-ce que, par exemple, vous acceptez des sons montés, ou juste des sons à pur? Si quelqu'un vous envoie un montage ou...
Belle, c'est là que.
En même temps, c'est pas toujours le pied, alors.
Oui, mais après, c'est ce que c'était le petit nota bene que je disais pour ajouter. On n'a pas eu trop d'ajouts. On a plus fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'ai oublié de parler. On a plus donné toutes nos données à une recherche qui s'appelait European Acoustic Heritage, où justement on avait l'ensemble de nos fragments sonores dans une carte européenne, et là on est parti dans le sens inverse. Mais d'ajout, on en a eu très peu, donc ça ne s'est encore pas trop posé. Les critères précis de se dire oui ou non, vu que voilà, je suis toute seule alors qu'on est 5-6 derrière, je ne peux pas trop vous dire comment ça va se passer.
Ceci dit, il y a déjà des sons montés dans ce recherches.
Oui,
des vieux.
Le soir du dîner,
oui. Ben, y a un moment où ça, y a eu une coupure, il y a eu un... Parce que... Ouais, voilà.
Celui-là, il n'est pas explicite, mais il y en a d'autres, c'est écrit le montage de ces fragments.
Je pense que peut-être, au cours de... si on a des propositions, alors j'espère que ça créera une dynamique de réflexion autour de ça. Pour moi, ça devient coopératif, alors ça dépend. Et là, on est encore...
Et du coup, l'intention de cartophonie... Vas-y.
Une dernière question, enfin, bon, le travail que vous avez fait, c'est précieux, je pense, pour les historiens à venir. Et surtout qu'en plus, c'est fait dans une démarche c'est hiérarchisé, enfin, on sait ce que c'est. C'est vachement bien, mais ça, c'est comparé à, par exemple, bon, je ne connais pas les Orson Map, mais comme vous l'avez dit très justement, le jour où le site est un bug ou je ne sais pas quoi, ça disparaît, et finalement, ça ne sert à rien.
C'est pas que ça ne sert à rien, c'était une autre démarche,
quoi. Oui, mais enfin, là, normalement, ça devrait traverser les années.
Oui,
ça,
ah oui.
C'est par l'université, c'est...
Ah oui.
Et puis surtout, on sait ce que c'est, en plus.
Oui.
Et justement, moi, j'avais une question, je voulais savoir quelle était vos... Est-ce que vous en aviez parlé à des instituts, enfin, les instituts qui sont censés faire des archives françaises, je pense, les LINA, notamment.
Alors, LINA,
non, mais
nous,
parce qu'on
n'est
pas archives audiovisuelles... au sens alors on n'est pas des archives départementales, on n'est pas un centre d'archives en général, c'est un labo de recherche, donc c'est encore d'autres logiques institutionnelles. Mais aujourd'hui il y a toute une démarche de réflexion sur l'archivage des données de la recherche, et donc là on est en train de se rapprocher d'organismes, et un grand truc qui se crée en France aujourd'hui qui s'appelle Humanité Numérique, et qui essaie justement d'aller vers les labos et leur dire, bon, vous avez des archives, comment vous les structurez, vous savez qu'il y a des standards, comment on peut vous aider à passer dans ces standards internationaux pour qu'elles soient interopérables. Donc nous, comme on est un peu dans une échelle un peu petite, on va essayer de s'articuler à ces gens-là et à voir comment on dialogue avec eux, comment ils nous aident avec leur appui technique pour qu'on monte en qualité aussi.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire du coup, on n'a pas d'archiviste, on n'est pas des archives, c'est d'autres tuyaux, mais en même temps, on se rapproche aussi de ces gens qui ont ces compétences-là via des institutions type CNRS, etc. Ça communique quand même, mais Alina.
Vous imaginez qu'à terme, dans 50 ans, on ira à la BNF et on se fera...
Ben là, la BNF.
Alors, la BNF, comme il y a quand même une diffusion de ce rapport de recherche avec les fragments sonores, ils nous ont assez vite contactés en nous disant « Ah, et de là, vous diffusez, ou voilà, vous donnez, ou vous dites, ben, on vous demande le prix de la reproduction, ou ce genre de truc, vous êtes obligé de déposer à la BNF les fragments sonores. » Donc, ils nous ont demandé nous céder au départ, parce qu'on a fait tout ça, et après, on va s'y remettre, on l'orientera. Mais on s'est rendu compte que la façon dont ils représentaient nos données dans le catalogue de la BNF, ils se plantaient, même si on leur envoie toutes les fiches et tout, ils recopient mal, quoi. Donc, on a fait essayer de tracer toutes les erreurs, et puis là, on a dit, bon, ben là, on va prendre un stagiaire, et on a essayé d'y bosser, mais on est encore là, quoi. C'est encore pas au point, quoi.
Parce que c'est ça qui est assez fou, quand on regarde European Acoustic, bon là c'est... elle est très bien, mais par exemple, on perd des données. Tout ce qui est... Par exemple, ça c'est l'ensemble des cartophones, des sous-maps qui ont collaboré à ce projet. Par exemple, cartophonie, on s'aperçoit qu'on a mis tout notre fond, mais il n'y a plus que la description du fragment sonore avec le titre. Tout ce qui est donné écrit, tous les liens, mais ils sont partis, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand on collabore, des fois, on prend pas tout, quoi. Donc c'est normal, mais après c'est juste de prendre au moins mais correctement la donnée. Donc ça c'était aussi un montage avec European Acoustic, technique qui était complexe parce qu'il fallait que tout soit en lien et que le lien soit pérenne. Donc il y a toujours pour moi, ce projet est très enrichissant à faire parce qu'il y a tout le temps la donnée technique et les recherches qui se mêlent et qu'il faut essayer d'allier pour aller pour conserver. Quoi.
Ouais. Moi, je crois que la BNF a raison parce que j'ai deux points sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, c'est que je ne pense pas à l'objectivité de la prise de son. Je pense que, comme elle le disait, sur le site de Peter Cusack, il met en ligne son point de vue. Et je pense que la meilleure des entrées, c'est de regrouper par photographe sonore. Parce que on ne prend pas du son n'importe où, n'importe comment, et chacun a sa façon de voir le monde. Et en plus, on utilise des outils extrêmement réducteurs qui sont ces fragments de réalité qu'on essaie de capter. Et là, c'est le deuxième point sur lequel j'aimerais qu'on discute un tout petit peu, c'est comment on essaie de représenter l'espace avec des outils plans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, on prend en compte tout ce qui s'est fait par le passé, ça nous fait des souvenirs et des jolies cartes postales sonores en noir et blanc, mais aujourd'hui, par exemple, n'importe quelle ville est capable de faire une proposition photographique de sa ville en 360. Or, aujourd'hui, on sait le faire en son. Et on sait mettre l'auditeur d'un lieu en situation active et lui permettre d'avancer dans ses représentations sonores. C'est peut-être vers ces évolutions-là qu'on pourrait voir l'avenir. Parce que, d'une part, si on veut de l'objectif, alors c'est l'auditeur qui, lui, va faire ses choix de cadre et le choix de ce qu'il entend. Quand on entend les gens qui parlent dans les jardins avec les enfants, on ne sait pas qui est devant, qui est derrière, qui est la radio. Si l'auditeur est capable, lui, d'aller choisir et de se rapprocher de tel ou tel fragment qui l'intéresse, moi je trouverais ça super intéressant, surtout qu'on a les outils aujourd'hui pour faire ça. Donc je pense que l'avenir pourrait aller un petit peu dans cette direction. Il y avait deux mots, c'était aller plus loin. Donc, d'accord, pour aller plus loin. Et voilà, là, on pourrait faire des propositions assez intéressantes.
Moi, j'ai pas l'impression qu'il revendique l'objectivité, puisque chaque son, quand par exemple, on va cliquer sur Strasbourg, on va écouter le son de Strasbourg, il y a marqué le nom de l'auteur.
Oui, oui.
C'est bien qu'on écoute une représentation, sinon il n'y a pas marqué c'est Strasbourg. C'est comme quand on va dans une bibliothèque.
Oui, je ne parlais pas forcément d'eux, je parle par exemple de Paris, écouter Paris. Je connais bien Michel et Monica. Effectivement, c'est leur vision de Paris qui traduisent pas sous cette mais c'est leur vision de Paris. Les sons qui s'incorporent à écouter Paris ne sont qu'en accord avec leur vision de Paris. Mmh. Donc voilà, c'est bien, ça rentre toujours dans un cadre. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce filtre.
Mais concrètement, cette idée de se déplacer, au final, comme le Street View, dans le... En fait, ce serait Sonic Street View, quelque chose comme ça.
Non, on peut, hein.
On peut, mais est-ce que l'Internet le supporterait vraiment de façon... Bon, on va se rendre là bientôt, au final. Ouais.
Ça bouge, il y a beaucoup de projets de villes qui utilisent le déplacement dans l'espace. Alors, c'est des poètes, hein. On dit, tiens, il y a une rivière, alors on fait un petit peu d'eau. Tiens, il y a une rue, alors on fait une rumeur de rue. Puis les gens, en avançant, ils écoutent un peu moins d'eau, un peu plus de rue. Ça, franchement, c'est bêta. Mais on sait qu'on va pouvoir avancer dans ces directions-là.
Mais pourquoi ce serait plus objectif si on se déplace, si c'est du 360?
Oui.
Mais pourquoi ce...
Ah,
pourquoi
ça s'appelle... Mais parce que du coup, c'est ton point de vue à toi, c'est parce que du photographe.
C'est quand même quelqu'un qui a enregistré le son.
Qui a fait la prise de son, c'est un objectif ou un autre.
Non, ce qui peut être intéressant dans ces pensées dispositives, c'est aussi d'arriver, enfin en tout cas d'un point de vue des aménageurs, à localiser les sources et à spatialiser l'environnement, enfin savoir ce qui est devant, ce qui est derrière, comment on peut, et ça permet d'aller plus loin dans les descripteurs, notamment sur la question du relief, des plans, enfin on peut ramener des éléments de compréhension de l'espace sonore qui sont difficilement apportables sur ce genre de fragments. Mais peut-être ça nécessite peut-être des expériences aussi vraiment humaines et corporelles. Enfin, je pense que ça peut pas que passer par les réseaux. Enfin, c'est un complément, le réseau, pour moi. Je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait des lieux aussi où on puisse vraiment aller écouter, enfin, comme on a fait des lieux pour aller regarder des paysages. Peut-être c'est intéressant de se dire que voilà, il y aurait peut-être des lieux ressources possibles où on pourrait avoir des salles de restitution qui amènent justement, qui allient ces technologies de la spatialisation avec des descriptions qui vont plus dans la finesse par rapport à la question, justement spatiale, géographique, et qui puisse être un réel outil peut-être pour les aménageurs aussi, pour se réapproprier en fait en direct. Enfin, moi, il y a eu beaucoup, pas mal de projets en fait qui utilisaient des restitutions quadriphoniques ou octophoniques, enfin, etc., et qui sur une carte permettaient aux architectes de déplacer des masses, déplacer des immeubles pour voir qu'est-ce que ça pouvait modifier. Donc il y avait des petits modèles qui permettaient d'aller non seulement dans l'analyse, mais aussi dans le projet. C'est ça l'intérêt, je pense, à terme. C'est que ça puisse être un outil qui puisse être manipulable. Et c'est ça que peut amener, je pense, ce genre de dispositif. Contrairement à, effectivement, l'écran qui reste un écran, mine de rien. Enfin, qui est une manière de diffuser, mais qui reste quand même très, très distante.
Je ne comprends pas pourquoi ça pourrait servir. Je pense que je suis un peu dans la ligne de questionnement. Il y a beaucoup de problèmes à cette approche. Il n'y a pas seulement le problème de la personne qui enregistre. On n'est pas des machines. Même si tu es là avec un microphone, 360 ou maximum 3, 4, 5, 90 microphones, c'est très important. Tu vas bouger avec un certain. Tu vas faire des choix inévitablement qui vont impacter ce que tu enregistres. Donc, du point de vue de l'enregistrement, l'objectivité est impossible. Puis après, du point de vue de pour les architectes et tout, ça peut aider à quelqu'un qui ne veut pas, ne peut pas se déplacer là-bas. Évidemment, il ne peut pas se déplacer avec un volume de béton que serait un bâtiment. Donc, ça pourrait aider pour anticiper un peu les effets, mais ça ne peut pas aider à anticiper la réaction d'un public culturellement divers qui bouge dans le temps avec une mémoire collective différente. leur réaction à un battement ou à un son.
C'est pas seulement le public, c'est justement, on parle pas du public, mais bon, c'est peut-être que là, on a glissé déjà sur, peut-être, enfin, il faudrait peut-être présenter d'autres modèles pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle, parce que je pense qu'on n'est pas forcément sur les mêmes sujets.
Mais les enjeux sont tous les mêmes.
Que tu présentes, Sylvie, je la comprends, je comprends. Il a un intérêt historique, ça a un intérêt aussi à niveau de projet, à niveau de tout ce que vous avez essayé de faire. Mais essayer de faire une représentation, comme vous dites, un street, ce que tu as dit, non? Un street view, mais un Sonic street view.
Bon, on pourra prolonger, on va prendre une petite pause, laisser le temps à Pascal de s'installer. On se donne un quart d'heure.